Chapitre 6. Ai-je croisé le violeur? Affaire Morgane Avril, dimanche 6 juin 2004. C'était la première fois que l'aspirant Maxime Baron voyait un cadavre. Quand les adolescents étaient venus le tirer par la manche, il n'avait pas pu y échapper.
« Monsieur l'agent, il y a une morte sur la plage !»
Maxime n'avait pas eu le temps de leur expliquer qu'il n'était qu'élève aspirant à la gendarmerie de Fécamp, qu'il se trouvait là par hasard, place Jean-Paul Laurens, à Yport, pas vraiment au service, que le capitaine Grimat était là-bas, à attendre l'ouverture du PMU pour acheter des clopes, qu'il arrivait. Il avait dû suivre les ados. La fille sur la plage d'Yport avait le crâne défoncé. Tombée de la falaise, sans aucun doute, tête la première. Une bouillie de cervelle coiffait sa jolie frimousse. D'abord, Maxime vomit son petit déjeuner sur les galets sous le regard consterné des jeunes autour de lui. Ensuite, il s'essuya d'un revers de manche et téléphona à son chef.
« Phil, on a une morte, sur la plage, juste au niveau de l'hôtel-restaurant La Sirène et du casino. »
Maxime leva les yeux. Une immense affiche, 2 mètres sur 3, s'étalait sur les murs du casino. Festival Riffenclyffe, 19h-4h du matin. Sous une guitare argentée flottant en apesanteur devant les falaises, étaient déclinés les noms de 15 groupes de rock régionaux. Des canettes et des bouteilles vides jonchaient la digue de béton. Yport se réveillait avec la gueule de bois. Le capitaine Philippe Grimat arriva moins d'une minute plus tard, le temps pour Maxime de gerber encore une fois et qu'un attroupement se crée sur la plage. Maxime n'était pas certain que son chef ait une plus grande expérience que lui des cadavres. Son supérieur avait à peine 5 ans de plus et sortait tout juste de l'école de gendarmerie de Montluçon, pote autant que patron. Hier encore, après avoir sué ensemble dans le club de squash de Fécamp, ils avaient parlé foot, vélo et gonzesses pendant 2 heures dans un bar du front de mer, avant que Grimat ne rentre chez lui. Le capitaine était marié et déjà papa. 5 ans de plus. Presque une vie d'écart entre eux. La preuve, le capitaine Grimat ne gerba pas. Il se comporta en boss. Terminé la complicité avec l'aspirant baron, il n'osa pas même un clin d'œil ou une tape dans le dos. Il donna des ordres secs et précis que Maxime exécuta avec diligence, pas vexé le moins du monde de la froideur de son chef. Fier plutôt, un modèle. Lui dans 5 ans. La première chose que fit le capitaine Grimat fut de demander à l'aspirant baron de s'essuyer le coin des lèvres et de faire reculer les badauds. Puis il sortit son téléphone portable de sa poche et prit une bonne 30aine de photos de la scène. Enfin, il se retourna vers la petite 20aine de personnes attroupées, principalement des adolescents. « Quelqu'un connaît cette fille ?» Parmi eux, il y avait un type habillé d'un gilet rouge fermé par des boutons dorés. Un look de groom de plage qui serait affecté à un ascenseur creusé dans les falaises. Sur son cœur, au-dessus des flammes jaunes du logo du casino d'Yport, étaient cousues 6 lettres d'or, Jérémy.
Oui, moi. Impossible de ne pas se souvenir d'elle. Elle a passé toute la nuit au Sea View.
L'identification de la fille prit moins d'une heure. Morgane Avril, 19 ans, étudiante en première année de médecine. Domiciliée chez sa mère, Carmen Avril, gîte du Dos d'Âne, route de Foucarmont à Neuchâtel-en-Bray. Le lieutenant Grimat n'eut aucune peine à reconstituer les événements ayant précédé le drame. Morgane Avril était venue la veille au soir à Yport pour assister à un festival de rock organisé par le casino d'Yport, Riffenclyffe. Elle était accompagnée de sa sœur Océane et de 3 autres amis, Nicolas Gravé, Clara Barthélémy et Mathieu Picard. La Clio de Nicolas Gravé et ses 4 passagers était partie de Neuchâtel-en-Bray à 100 kilomètres d'Yport vers 18h la veille. La mère de Morgane avait longtemps hésité à délivrer un bon de sortie à ses filles, pourtant majeures. Surprotection, appréhension, prémonition. C'était leur première soirée en discothèque. Morgane avait bûché pendant des mois à la fac de Rouen et passé avec succès sa première année de médecine, admise au 38e rang. Difficile pour Carmen d'enfermer sa fille. Les premiers constats du médecin légiste appelé sur la plage établirent sans l'ombre d'un doute les circonstances de la mort de la jeune fille. Morgane Avril avait été violée entre 5 et 6 heures du matin, puis étranglée et enfin jetée du haut de la falaise d'Yport. Visage tuméfié, membres désarticulés sous le choc, robe déchirée, sous-vêtements arrachés. On ne retrouva la culotte de Morgane que le lendemain,
un string fuchsia au pied de la falaise, à quelques dizaines de mètres sous le blockhaus, sans doute soulevé par les vents d'ouest. Le string portait des traces de sperme et quelques poils pubiens appartenant au violeur, identiques à ceux qu'on retrouva sur le corps de Morgane. Aucune trace, par contre, du sac à main de la jeune fille, ni au vestiaire du Sea View, ni sur la falaise, ni sur le platier. Les fouilles occupèrent trois flics pendant 2 jours sans le moindre résultat. Vers 16h, soit environ 10h après la découverte du cadavre de Morgane Avril, le capitaine Grimat était parvenu à auditionner 23 témoins, principalement des hypothèques qui avaient passé la soirée au Sea View, 15 hommes et 8 femmes. Le festival Riff on Cliff avait rassemblé près d'un millier de visiteurs, dont la plupart avaient enchaîné sur la soirée organisée au Sea View après le passage du dernier groupe. Pourtant, tous les témoins, sans exception, avaient été capables de décrire Morgane Avril avec précision. Belle, désirable, excitée. Le capitaine Grimat passa des heures par la suite à relire ses premiers témoignages recueillis sur le vif. Des propos souvent gênés, les témoins parlaient d'une morte, d'une fille qu'un type avait violée, sans doute l'un de ceux qui l'avaient matée dans la discothèque. Mais tous leurs commentaires convergeaient, garçons comme filles. Allumeuse, chaude, sexy jusqu'au string. Ils racontèrent sa lap dance improvisée autour d'une des poutres de chêne du Sea View, sa robe trempée, collée à la peau de sa poitrine humide lorsqu'elle remontait des toilettes, son corps d'anguille, ses mains qui jouaient avec le tissu sur ses cuisses, ses épaules, glissant, volant, s'ouvrant. Son regard qui se posait sur les hommes comme la mire d'un sniper. La sage étudiante en médecine s'était lâchée. Plus personne n'avait remarqué Morgane après 5h du matin. Personne ne l'avait vu quitter le Sea View. Personne ne put préciser si elle était sortie seule ou accompagnée. Vers 18h, le capitaine Grimat reçut Carmen Avril, la mère de Morgane. Il l'avait volontairement fait patienter. Officiellement parce qu'il souhaitait traiter en priorité les urgences, les indices encore frais, les témoignages directs. Officieusement parce que 2 images se brouillaient dans son cerveau. Celle du cadavre désarticulé de Morgane et celle de son corps désiré par des centaines de mâles quelques heures auparavant. Et il avait une trouille prodigieuse d'aborder cette question avec une mère qui devait avoir à peu près l'âge de la sienne. Carmen Avril entra, un coffre-fort. Ce fut la première impression du capitaine Grimat. Un coffre-fort à percer. Les yeux du gendarme glissèrent sur sa silhouette de tonneau sanglé par les boutons de fer d'une veste en daim, ses bottes lacées sur de lourdes jambes. Tout le corps de Carmen Avril semblait cadenassé, jusqu'aux épaisses lunettes reliées à une chaîne derrière son cou et son sac à main de cuir à lourde armature métallique. Pour un peu, imagina le capitaine, elle cachait sous sa veste une clé pendue à son cou. Celle qui commandait son cœur. Perdu à jamais, pensa encore Grimat, jeté ce matin au fond d'un puits. L'homme qui l'accompagnait semblait avoir porté depuis des années la fatalité comme un poids trop lourd. Il possédait un visage mince qui dégoulinait jusqu'à un menton en pointe et 2 bras qui coulaient le long de son corps, genre caoutchouc. Il le fit penser à Monsieur Chatouille, celui au bras interminable, mais Grimat trouva la comparaison déplacée à cet instant-là. « Ils ne vont pas ensemble », se dit le capitaine. Il désigna les 2 chaises devant son bureau. « Monsieur et Madame Avril ?»« Madame !» répondit le coffre-fort. « Gilbert est l'oncle de Morgane, il m'accompagne. » « Et le père de Morgane ?»« Morgane n'a pas de père. » « Il est... » Le capitaine hésita entre plusieurs termes. « Mort, disparu, parti. » Carmen Avril le devança. « Morgane n'a jamais eu de père. »« Vous voulez dire que... » Le capitaine n'en avait aucune idée, mais il laissa suffisamment traîner l'intonation pour que Carmen Avril le coupe à nouveau. « Je l'ai élevé seul. Je tiens un gîte, le Dodane à Neuchâtel-en-Bray, depuis 25 ans, seul aussi. » Elle se tourna vers son frère. Son sac à main fit un cliquetis de bagnard qui tire sa chaîne. « J'ai tenu à ce que Gilbert m'accompagne aujourd'hui, mais d'habitude... » Cette fois-ci, ce fut Grimat qui tendit la main à Carmen. « Vous supportez les épreuves seules, je comprends. » Il ne mentait pas. Carmen Avril était un roc presque insubmersible. Il l'avait parfaitement saisi en quelques mots échangés, et d'ailleurs l'enquête le confirmerait les jours suivants. Carmen était une institution à Neuchâtel-en-Bray. patronne d'une table d'hôtes réputée et d'un gîte trois épis, vice-présidente de l'Association de développement du pays de Bray, déléguée au tourisme et à la culture, conseillère municipale pour un mandat 15 ans auparavant. Une femme forte, active, déterminée. Pas d'homme dans sa vie. Son frère, Gilbert Avril, était chauffeur routier pour une compagnie de Gournay-en-Bray et passait la moitié de sa vie dans le ferry Dieppe-Newhaven à transporter vers l'Angleterre des produits laitiers dans son camion frigorifique. Le capitaine insista, il fixa Carmen. Les boutonnières de sa veste barrée de tiges de métal ressemblaient à des meurtrières. « Pour le père de Morgan, j'ai besoin de savoir. » Elle prit un air navré que Grima n'aima pas. « Dois-je vous le répéter, capitaine ? Elle n'a pas de père. » C'est une expression, Madame Avril. Aucun père ne l'a élevée, sans doute. Mais d'un point de vue génétique, je dois savoir qui... J'ai fait une five, il y a 19 ans. Grima prit le temps de réfléchir. Il connaissait la loi. La fécondation in vitro était réservée aux personnes mariées ou pouvant au moins prouver 2 ans de vie commune. Il faut être en couple pour cela, non? Pas en Belgique. Nom de Dieu, pensa Grima. Carmen Avril avait fait ses 2 gosses seule. Dans d'autres circonstances, il aurait sans doute poussé jusqu'à lui dire à quel point il trouvait cela égoïste. Depuis 4 mois, chaque nuit, il se réveillait toutes les 3 heures pour donner le biberon à sa fille Lola. 5 kilos de frissons lovés sur son torse nu. Et à chaque fois, il bénissait le ciel que sa copine Sarah n'ait pas voulu allaiter.